Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous du Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, comme chaque vendredi. Et nos amis sont là au rendez-vous, notre duo de choc qui anime vos vendredis jusqu'au dimanche soir, jusqu'à l'émission d'après. Rémi Ngono et Xavier Barré, bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs.
Bonsoir à tous.
Rémi fait dans la parité. Alors, ils ne sont pas seuls dans ce studio, je vous rassure. Il y a aussi Eric Rabé-Sandratana. Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Faudra vous sortir votre rôle de défenseur pour faire arbitre.
Ouais, hein,
parce qu'à certains moments, ça peut avoir son importance. Et puis, Olivier Pron est là aussi. Bonjour Olivier.
Oui, moi je vais faire dans la sobriété. Bonjour à tous.
Sobriété, il est à la place du réfé pourtant aujourd'hui, assis sur son siège.
C'est juste pour une journée, je vous rassure. Je ne l'envie pas du tout.
Et puis, nous avons un stagiaire qui est là avec nous, Louis Spiga. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous l'entendrez à la fin de l'émission, Louis, notre stagiaire de la semaine. Dans les débats, nous évoquerons la fin d'un mercato plutôt tranquille. En Europe, pas de gros coups, pas de très gros transferts. Si ce n'est en principauté, beaucoup de mouvements là-bas à Monaco. En perdition, a beaucoup recruté, de quoi reconfigurer son équipe. Mais dans l'urgence, est-ce des choix judicieux? Alors qu'au PSG, il n'y a toujours pas de numéro 6. Haro sur Antero, par contre, Antero Henrique, le directeur sportif responsable du recrutement. Le Paris Saint-Germain à Lyon pour une rencontre toujours très disputée dans l'antre des Gaunes. L'OL, qui sait si bien cacher son jeu, vaincra-t-il, comme l'an passé, un PSG diminué? Enfin, diminué puisque sans sa star Neymar. En Première Ligue, le match phare du week-end opposera les Citizens et les Gunners. Manchester City ne peut se permettre de perdre pour ne pas décrocher des Reds. En milieu de semaine prochaine, il y aura, notez-le bien, un vrai match phare. Barcelone-Real Madrid en Coupe du Roi, Copa del Rey, match aller. Trois classicos en quelques jours en Espagne. Eh bien, c'est normal, ça se notifie. Rémi, pour commencer cette émission, je vous offre un proverbe africain de la part d'un de nos auditeurs fidèles de Kinshasa, Ben Lumou. Comme le dit un proverbe africain, dit-il, parce que ça fait partie du proverbe, ne serait-ce que cette formulation, ce n'est pas parce que le lion maigrit qu'il faut donner sa chemise à un singe. Je vous laisse méditer.
Magnifique. Encore qu'il faudrait que le lion puisse avoir une chemise.
Ces gens-là ne sont pas comme nous.
Peut-être un maillot.
Un lion avec une chemise, méditer. Bon.
Radio Foot, les débats sont ouverts.
Craquez la monnaie.
Allô? Oui? À qui ai-je l'honneur?
Allô, John, comment ça va aujourd'hui?
Vous savez, il est 17h45 partout en Belgique et on aimerait bien aussi avoir un petit bout de week-end, hein. Pourriez-vous cacher, d'occuper à boire un verre, hein.
La raison de mon appel d'aujourd'hui, John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Si vous avez quelques secondes, j'aimerais vous en parler un peu. Vous avez une minute?
J'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie, moi. Moi, je gagne ma vie suffisamment. Du pognon, j'en ai, t'inquiète pas pour moi. Ce côté-là, tout va très bien.
C'est maintenant qu'il faut se décider.
Bah, comment ça joue au malin, hein? Pour un crétin ou quoi? Oh!
Et oui, la monnaie, c'est ce qui anime un mercato d'hiver comme d'été d'ailleurs. En tout cas, c'en est fini pour le mercato d'hiver 2019. Et que faut-il en retenir de ce moment de vente de prêts, d'échange de joueurs entre clubs? Qu'à part Monaco, et on y reviendra très précisément, eh bien, les autres équipes ont plutôt procédé à des ajustements supposés, donc, ou théoriquement voulus par ces soldes d'hiver, en quelque sorte. Sur l'ensemble des mouvements, une tonalité, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de très grosses choses dont on pourra se souvenir longtemps, Xavier Barré.
Ah, c'est vrai que si on regarde le bilan de cet hiver par rapport à l'hiver dernier, où on avait franchi la barre du milliard d'euros en transactions, ce qui était une première dans l'histoire du football, il y avait Philippe Coutinho, il y avait Van Dijk, il y avait Aubameyang, Mkhitaryan, Alexis Sanchez, Laporte en tête d'affiche des transferts de l'hiver dernier. Cette année, ça fait un peu pauvre, hein. Higuain à Chelsea, Paredes au PSG, Morata à l'Atlético. On a vraiment le sentiment que ce mercato d'ajustement, comme vous disiez, est revenu à sa place. C'est-à-dire, on règle quelques problèmes dans certains clubs, mais il n'y a pas de gros investissements de fonds réalisés notamment par les grosses écuries.
Eric?
Bah après, franchement, sur ce mercato-là, il est très intéressant pour Monaco, parce que là, Monaco, vous avez des sous, vous êtes en grande difficulté, donc vous pouvez dépenser pas mal, et puis vous avez récupéré des joueurs qui vont peut-être vous sauver la saison.
Sauf que ça accentue en fait la différence entre les riches et les pauvres,
exactement,
par exemple.
C'est exactement ça. Alors c'est vrai que d'habitude, il n'y a pas non plus, à part la saison dernière, mais sinon, il n'y a jamais de grosses dépenses, quoi. Donc, c'est plus un mercato pour dépanner qu'un mercato, un vrai mercato.
Pour remplacer des blessés, parfois.
Moi, je pense que pour un joueur, c'est intéressant. Pour plusieurs joueurs, à part Monaco.
À se demander si c'est pas un mercato qui est créé pour engraisser surtout les agents de joueurs. C'est à peu près ce qu'on peut en retenir.
Non,
on se demande pourquoi il dure un mois, pourquoi il existe. Et ceux qui se graissent et qui s'engraissent là-dessus sont d'abord les agents de joueurs.
Ouais,
il y a des mouvements absolument.
Ouais, mais je suis pas sûr par rapport à ça, parce que l'UEFA ils sont plus contre les agents que pour les agents, donc ils essayent, je suis pas sûr que ça rentre.
Non, mais il y a un élément important dans ce mercato d'hiver, c'est que malgré la libéralisation du marché faite par l'UEFA qui autorise un joueur qui a participé à la Ligue des Champions sur la première partie de la saison dans un club à changer de club, on s'attendait justement
la compétition
et à jouer, ce qui n'était pas le cas la saison dernière par exemple pour Philippe Coutinho qui quitte Liverpool et qui ne peut pas jouer avec le Barça au printemps en Ligue des Champions parce qu'il a déjà joué avec Liverpool. Cette saison, c'était possible, et ben malgré cette évolution réglementaire, on n'a pas le boom sur les transferts auxquels on pouvait s'attendre.
Rémi ?
En fait, le mercato d'hiver, c'est un mercato qui ne devrait même pas exister, parce que en réalité, on prépare une saison au début. Donc, ce n'est pas au milieu de la saison qu'on va dire que maintenant, je découvre qu'il y a ceci qui me manque, sauf il y a des cas, d'ailleurs, que moi, j'aurais souhaité que ce soit uniquement pour ça, c'est-à-dire que des cas de blessures très, très graves, comme par exemple celui de Neymar, ou bien un accident, comme celui, par exemple, qui est survenu par rapport à Salah. Mais à part ça, je ne vois pas comment est-ce que les gens disent, comme je suis en train de voir aujourd'hui, il reste moins de 30 minutes, et il y a quelqu'un qui est en train d'arriver, on est en train de faire ceci et cela. Mais attendez, cela veut dire que vous faites dans l'improvisation, puisque le début de la saison, et il y a déjà la mise en place tactique qui se fait, et il y a des déplacements qui sont étudiés. Donc, admettez par exemple que vous avez fait toute une préparation foncière pour une suite de la compétition. Et maintenant, on vient avec un singleton qu'on vient mettre dans cet engrenage-là. Qu'est-ce que ça fait? Au moment où celui-là fait l'appel à gauche, lui, là, à droite. Au moment où l'angle de passe, il ne peut pas le faire. Cela veut dire qu'en réalité, il vient tout dérégler. Au lieu de dire ce qu'on appelle justement qu'on est en train de réajuster, je crois plutôt qu'on est en train de tout gâter.
Alors, peut-être pas partout, parce qu'on peut penser à Balotelli, peut-être qu'il va un petit peu améliorer les résultats. Résultat de l'OM.
Bah déjà, c'est stat à lui. Déjà. Non, mais après, c'est. Je veux pas dire le bêtise, mais
Il a déjà marqué.
Il a déjà fait mieux que ce qu'il avait fait à Nice. Donc,
mais ne soyez pas anti-marseillais.
Non, pas du tout. Il me semble quand même que ce mercato était au départ pour des joueurs qui n'avaient pas de contrat et qui n'avaient. Je pense que c'est pas ça l'origine de ce mercato d'hiver qui permet justement d'aller chercher des joueurs qui n'ont pas de contrat et qui peuvent dépanner justement s'il y a un problème physique.
Non, mais le mercato d'hiver à l'origine était voulu par la FIFA et l'UEFA pour encadrer des réglementations très disparates. Par exemple, en Angleterre, on pouvait transférer les joueurs jusqu'au mois de mars. Il y avait des transferts tout le temps. Et à l'inverse, dans d'autres pays, notamment en France, c'était hyper réglementé. On avait le droit de transférer pendant l'été jusqu'à la veille de la première journée de championnat. Et ensuite, on avait droit à un joker pendant la saison. Donc voilà, il y avait une telle disparité entre les pays que, effectivement, par exemple, les clubs français pouvaient se faire piller tout l'automne et même jusqu'au mois de mars par les clubs anglais. Et à l'inverse, ils pouvaient pas recruter. Donc l'UEFA et la FIFA, il y a une quinzaine d'années, ont réglementé ça, ont ouvert des périodes de transfert bien déterminées, qui sont plus ou moins respectées. En Europe, oui. Dans le reste du monde, c'est un peu différent. Chine, au Qatar, on peut transférer
plus tard. Et ça
évolue,
parce que
c'est tout sauf fair play.
Et l'été, par exemple, on voit que cette période, les championnats commençant en France notamment dès le début du mois d'août, en fait, l'Angleterre a décidé que à la veille du début du championnat, le mercato se referme.
Alors ils ont décidé ça cette année, les Anglais, ils l'ont un peu regretté. D'ailleurs, les Italiens aussi ont avancé parce que en fait, qu'est-ce qui dicte le marché? C'est les grands clubs, donc ceux qui ont de l'argent, qui sont en Ligue des Champions. Or, l'UEFA ferme ses listes d'inscription à la Ligue des des Champions au 31 août et au 31 janvier. Donc ces grands clubs qui peuvent faire le marché par le jeu de domino auquel on assiste parfois, eh bien c'est eux qui imposent le rythme, et donc tant qu'ils sont dans la course pour éventuellement recruter un joueur et qu'ils n'ont pas encore inscrit ce joueur à la Ligue des Champions, c'est-à-dire tant que les listes ne sont pas fermées, il y a toujours des transferts, des transactions possibles.
En tout cas, c'est sûrement un signe, hein. En Première Ligue, eh bien, si on peut prendre ça comme baromètre, pour la première fois depuis 2012, les dépenses sur ce marché d'Angleterre ont été moins importantes que l'hiver dernier, et même depuis 2012, c'est la première fois qu'on voit une différence et une baisse. En Europe, alors attachons-nous eh bien à Monaco, parce que c'est le club qui a la palme des entrées et sorties, on va dire, même si le Paris Saint-Germain a lui dépenser le plus sur un seul joueur. En tout cas, dans Le Parisien, aujourd'hui, il y a un agent qui nous dit d'ailleurs que l'attitude de Monaco est celle d'un panic buy, c'est-à-dire on achète dans la panique, effectivement, une équipe un peu... C'est théoriquement pour une équipe de losers. Là, c'est vrai que étant avant-dernier de Ligue 1, il y a eu beaucoup d'entrées.
Il y a 10 arrivées et 9 départs.
Voilà, exactement. Ouais. Beaucoup d'arrivées.
C'est 3 oui, fois plus, 4 fois plus, 10 fois plus.
Oui, ça que
certains clubs. Les Lyon, par exemple.
Les départs, c'est pas des titulaires, pratiquement.
Il y a eu beaucoup de clubs, il y a eu 3 fois rien. Eux, ils ont 10 arrivées pour 9 départs. C'est là où c'est pas fair play du tout. Et c'est là où, vous m'excuserez, mais je pense qu'il y a des agents qui se gavent.
Et surtout, Olivier, ce qu'on peut constater, parce que les départs, il y a des noms qu'on voyait évidemment pas titulaires dans l'équipe, alors que par contre, dans les arrivées, on a l'impression qu'ils vont reconfigurer l'équipe.
Mais c'était quand même titulaire. Une certaine époque.
Il y a quand même un changement important à Monaco. Qui a
c'est l'entraîneur, c'est ça?
C'est le changement d'entraîneur. Et derrière lui...
Oui, mais c'est Henri qui avait commencé, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs. Mais Annie, derrière lui, le changement de pouvoir au sein de l'AS Monaco. Parce qu'il faut rappeler qu'est arrivé l'année dernière un nouveau directeur sportif, Michael Emenalo, ancien de Chelsea, qui a donc fait venir des joueurs et qui, comme traditionnellement un directeur sportif, travaille avec ses réseaux, plus axé sur l'Angleterre, mais ailleurs aussi. Et donc, Leonardo Jardim, s'il est parti cet automne, c'est aussi parce qu'il était en désaccord avec Michael Emenalo. Les résultats catastrophiques de ces derniers mois du recrutement fait par Emenalo et du management de Thierry Henry font que Leonardo Jardim revient maintenant, mais revient avec les pleins pouvoirs. Et donc, du coup, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il recrute des joueurs en activant les réseaux qu'il connaît.
Mais alors, justement, est-ce que ces recrutements sont judicieux? Rémi, est-ce que les choix, bon, alors, Fabregas, tout ça, ça avait été juste avant qu'il n'arrive, mais les derniers même qui sont arrivés, est-ce que ça va permettre, selon vous, à cette équipe de Monaco de se sauver de la relégation, parce qu'il ne reste que ça?
C'est comme si vous me demandiez, est-ce que ça va permettre à un coq à qui on a coupé la tête de se sauver parce qu'il est en train de sautiller? Jamais, c'est pas possible, parce que aujourd'hui, Xavier Barré est en train de vouloir me dire que la faute c'est à Menalo qui est venu chambouler tout à Monaco, mais je devrais quand même lui dire que avant cela, on voyait déjà, tout le monde voyait la dégringolade, on était sur une pente descendante. Donc aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder d'ailleurs pourquoi est-ce que Jardim est parti, Jardim c'est avec une victoire. Donc lui-même, il n'avait plus de solution. Il revient maintenant. On prend un lot de cartes, un château de cartes qu'on est en train de vouloir bâtir sur du sable mouvant. Et on se dit que
sur un rocher.
Empilant, c'est du sable mouvant. C'est pour ça justement parce qu'on appelle ça le rocher, parce que le rocher est devenu juste une argile friable. C'est pour ça que pour aujourd'hui, ce Monaco-là ne représente plus grand-chose, parce que quel que soit ce qu'il pourra faire aujourd'hui, le maximum, moi j'ai vu comment est-ce qu'il a essayé de bricoler lors des deux premiers matchs, mais ça n'a pas marché. J'ai vu que lui-même, il avait des yeux
on l'a vu debout,
et implorant Dieu, parce que lui-même, il a compris que son pouvoir est terminé. C'est comme
mais
ça.
Rémy Ngono, il a très mal vu. C'est surtout des lunettes dont il aurait besoin, Rémy Ngono.
Honnêtement, je pense qu'il a besoin de prothèses auditives, parce que j'étais pas venu depuis longtemps. Il hurle, il ne parle pas, il braille.
Non, mais surtout, il a très mal vu, parce qu'il nous parle des deux matchs de Leonardo Jardim comme entraîneur. Or, il n'en a dirigé qu'un seul. C'est la demi-finale. C'est la demi-finale de Coupe de la Ligue à Guingamp. Qui était intéressant, comme dit Eric Rabessandratana. Mais le précédent, c'était pas lui, c'était Franck Passy qui était entraîneur intérimaire, et Leonardo Jardim était dans la tribune. Donc, moi, j'en ai vu qu'un seul dirigé par Leonardo Jardim pour le moment. Et donc, à Guingamp.
Et voyant ça, vous pensez qu'ils vont sauver?
Non, mais à Guingamp, ils mènent 2-0 à 10 contre 11.
Ah oui, c'est inquiétant.
Ils finissent, ils sont éliminés au tir au but. Ils sont éliminés au tir au but après avoir joué une mi-temps à Nice à 10 contre 11 à Guingamp. Donc moi je trouve que c'est
pratiquement demi-temps.
Je trouve que
oui,
Je trouve pas que le dernier de Ligue 1 pas mal.
Je trouve pas que ce soit catastrophique.
Le royaume des aveugles, les bornes.
Je sais, mais quand même, c'était pas mal. Cette équipe de Guingamp était quand même.
Le dernier de Ligue 1, excusez-moi Rémi, j'ai dit un proverbe français, auditeur, si vous nous écoutez, on en a quelques-uns aussi. Donc Guingamp, dernier de Ligue 1, c'est bien. Ok, bah, je vais essayer de m'intéresser un peu plus à la Ligue 1.
Sur ce match-là, c'était intéressant. J'ai trouvé une équipe complètement transformée.
C'est vrai.
Et non, mais après, moi, je suis pas inquiet du tout pour Guingamp et pour Monaco.
Est-ce que vous voyez des signes?
Qui va descendre?
Moi, je pense que Caen, c'est moins bien, et Dijon. Que Amiens, Dijon, c'est, faut se poser des questions, ouais.
Bon. Mais, ce Monaco version 2019, ça, vous trouvez ça intéressant, cette équipe remaniée, et finalement, qui va recommencer un demi-championnat?
Moi, je suis surtout content que Jardim soit revenu, parce que j'ai trouvé assez injuste de le virer quand même à malpropre, après tout ce qu'il a fait et ce qu'il a enduré. C'est-à-dire d'avoir attendu, je sais pas combien de temps.
Oui, on se demande toujours qui est parti, qui a voulu partir.
Les conditions financières étaient quand même intéressantes, mais bon, je veux dire, au-delà de ça, au niveau football, le gars, il a quand même encaissé pas mal de choses. Hein. Quand on lui piquait ses meilleurs joueurs tous les ans pour les revendre et faire des sous,
mais
et
il faisait c'était, partie c'était du projet,
bien
lui,
sûr. Mais je veux
d'accord.
dire, voilà, c'était.
Non, mais sur le fait d'avoir recruté, est-ce que ce recrutement peut rassurer?
Je pense que sur ce que j'ai vu contre Guingamp, ça peut être intéressant. Ouais.
Encore une fois, sauf contre Guingamp.
Contre Guingamp, on est d'accord.
Contre Guingamp.
Ce sera difficile contre les autres équipes, bien sûr.
Il faut bien rappeler, Guingamp, c'est quelle position?
Je suis d'accord avec toi.
Ok. Mais
on peut rappeler juste une chose, c'est que Guingamp a éliminé le PSG en Coupe de la Ligue.
Et on peut juste rappeler que Guingamp a pris 9 buts contre le PSG.
En championnat,
continuons.
Mais ils avaient éliminé 9 buts. Ils avaient éliminé le PSG.
Ils avaient 9 buts,
le PSG en a marqué l'an dernier, 9-3. Donc c'est possible. C'est du déjà vu. Mais par contre, effectivement, ils ont éliminé le PSG. Au Parc des Princes, moi j'y étais.
Et c'était pas en pénalty.
Ils ont eu 3 pénalties, ils en ont d'ailleurs raté un, mais ils en ont marqué 2. Ils se sont qualifiés à la régulière. Et donc, c'est une équipe qui, effectivement, est dernière de la Ligue 1, mais qui a quand même un potentiel pour éliminer le PSG. Voilà.
Ça fait juste Rémi. On peut juste leur entendre des petits grommellements. Ça n'est pas un animal, c'est Rémi Ngono. Ah, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'animaux autour de votre transistor.
Qui?
Mais c'est une attaque directement.
Non, mais on peut Rémi, on vous entend.
On vous entend. Rémi, le micro vous trahit. Alors, en tout cas, Monaco jouera ce week-end, Olivier.
Ah bah encore une affiche qui plaira, une affiche de feu. Monaco-Toulouse, je me demande si je vais pas bloquer mon samedi soir. Monaco-Toulouse, ça promet. Au moins, on verra Gradel, l'un de nos amis ivoiriens. Donc, Monaco reçoit Toulouse.
Exactement.
Monaco aussi brillant à Louis II, ça promet.
Et le mercato du PSG, beaucoup d'interrogations car le club est celui qui a le plus dépensé sur un seul joueur, donc le fameux argentin Leandro Paredes, autour de 45 millions. Mais Thomas Tuchel, on peut s'en étonner parce que depuis le début du mois de septembre, il s'en plaint. Toujours pas de numéro 6. Eric Rabesandratana, tous les regards se portent vers un certain Antero Henrique que tout le monde aime bien critiquer, voire flageller. Ce directeur sportif chargé des achats, est-il un bouc émissaire ou vraiment est-il le responsable de ce manque toujours de recrutement?
Alors c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas tout ce qui se passe en coulisses et tout ça, mais en tout cas sur l'image et sur ce qu'on a, oui, on peut se poser des questions parce que il a déjà raté le mercato de l'été. Là, il rate le mercato. Alors, il en prend un sur deux, mais faut avouer quand même qu'on avait quand même besoin d'un vrai 6. Mais quand je dis un vrai 6, c'est-à-dire un gars qui court dans tous les sens devant la défense. C'était tout ça. Bien meilleur maintenant. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on avait besoin d'un chien fou qui était devant la défense, qui allait compenser le manque de travail de travail défensif des joueurs qu'on a devant. Donc c'est ça qu'on avait besoin. Paredes s'inscrit un peu plus dans un joueur comme un joueur qui construit le jeu et qui est intéressant techniquement, mais qui quand on est ancien joueur offensif et qu'on revient en numéro 6, on n'a pas tous les réflexes pour défendre.
Donc c'est pas un bon achat.
C'est un bon achat pour construire le jeu et pour avoir le ballon, sauf que peut-être que contre les gros, on n'aura peut-être pas le ballon tout le temps.
Xavier, barré cette affaire entre ces deux personnages que sont Tuchel et Antero Henrique, est-ce que c'est de là finalement, de cet antagonisme que vient le fait de ne pas réussir à cerner et à recruter qui il faut?
Mais clairement, on sait que l'été dernier, Antero Henrique avait milité pour le choix d'un entraîneur portugais. On avait parlé de Sergio Conceição, on avait parlé d'André Villas-Boas, et finalement le Qatar, parce que c'est venu directement du Qatar, ce choix a jeté son dévolu sur Thomas Tuchel, mais Thomas Tuchel se retrouve obligé de composer avec un directeur sportif qui ne voulait pas de lui. Et forcément, c'est pas évident dans ce contexte-là d'arriver à faire des choix de travailler en prospective en bonne coordination. D'autant plus que, d'après ce que l'on sait, Nasser, lui, s'en est un peu lavé les mains. Il leur a dit, bah, débrouillez-vous. Hein, il a d'autres choses à penser par ailleurs. Donc, débrouillez-vous. Et à l'évidence, les réseaux que Antero Henrique utilise pour essayer de recruter sont pas du tout ceux sur lesquels Tourelle s'appuierait lui. Évidemment, il y a d'un côté un portugais, de l'autre côté un allemand.
Ce qui pourrait être complémentaire.
Ce qui pourrait être complémentaire si ces deux hommes effectivement avaient été nommés en bonne intelligence. Or, c'est pas le cas.
Ou agissaient en bonne intelligence.
Ils doivent s'adapter en fait. Et le problème, c'est que chacun a sa position.
Tourelle, a priori, est en position de force pour le moment. Élimination en Coupe de France, en huitième de finale de la Ligue des Champions, peut-être qu'il serait fragilisé, mais c'est a priori l'homme fort. Oui. Antero Henrique, depuis l'année dernière, c'est un zéro pointé.
Ah bah,
il a
raté tout
ce qu'il entreprenait. Il a même la réputation d'avoir fermé le vestiaire à double tour, d'avoir des espions. Plus personne ne peut communiquer en dehors. Bon, apparemment, encore un petit peu. Mais il a vraiment, vraiment une réputation d'avoir tout fermé et d'avoir voulu mettre tout le monde à sa pogne. C'est pour l'instant un cruel échec. Le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi mauvais en termes de résultats que depuis qu'il est arrivé.
Pas, mais effectivement, il a perdu une partie de son attractivité. C'est certain.
Je crois que cette façon de flageller Henrique m'a fait beaucoup de mal parce que, justement, beaucoup de gens aujourd'hui confondent Henrique avec ceux qui échouent. Je devrais rappeler que le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un 6 depuis 4 ans et Henrique n'était pas là. Vous avez parlé de Kluivert. Qu'est-ce qu'il a apporté? Tout un chacun d'entre nous sait qu'on a fait venir Stambouli, les Cabaye et consorts pour jouer en 6. Ils n'ont jamais réussi à tenir ce poste. Tout le monde a vu Thiago Motta vieillir. On savait qu'il fallait un 6.
Ça, c'est vrai.
Personne n'a recruté. Aujourd'hui, vous me faites comprendre que c'est Henrique qui est arrivé, qui a échoué. Or, je vous fais comprendre que depuis Leonardo, le Paris Saint-Germain n'a jamais eu d'affaire de bon recrutement. Et d'ailleurs, je peux vous dire que même en 2013, le seul recrutement que le Paris Saint-Germain, au moment où on veut un 6, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent Lucas Moura. Lucas Moura, c'est 43 milliards. Et on nous fait comprendre
millions,
que 43 millions d'euros. Et on nous fait comprendre que ce mec-là, c'est celui-là qui va dépasser Garincha, alors qu'on a besoin d'un 6. Et je vous rappelle
d'ailleurs,
au moment où on veut aussi, et en 2011, on cherchait déjà le 6, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir Pastore à 42 millions d'euros. Ce ne sont pas les achats de Henrique. Ça, c'est les achats du Paris Saint-Germain depuis très très longtemps.
Alors, ça veut dire que c'est au-dessus de Henrique, lui n'est qu'au bouc émissaire.
Tourelle est celui-là même qui a été négatif.
Parce que depuis Leonardo, il n'y a personne.
Henrique a voulu faire venir Gay. Qui bloque Gay? C'est bel et bien Henrique qui veut refaire venir Rabiot, qui n'a jamais été numéro 6. C'est bien Henrique qui a bloqué, par exemple, Aubameyang, qui devait venir au niveau du Paris Saint-Germain, et il a dit non, il ne veut pas.
C'est Henrique qui a bloqué Rabiot, par contre. Il l'a dit publiquement, il a dit qu'il ne jouerait pas et qu'il resterait à la réserve.
Oui, parce que déjà, des choses, je devrais vous dire que ce n'est non plus Henrique. C'est absolument faux. Henrique n'a jamais bloqué Rabiot. Je devrais vous dire que le problème de Rabiot date de 2014.
Ça ne date pas de 2014. C'est le dernier contrat qui n'est pas renouvelé. On sait qu'il y a des problèmes.
Attends, est-ce que Amine, tu me permets
30 secondes. 30 secondes.
En 2014, Rabiot veut partir du Paris Saint-Germain. Pourquoi?
Non,
parce qu'il ne peut pas jouer.
Rémi.
Il ne peut pas jouer en 6.
Mais Henrique n'était pas là.
Il n'était pas là, Henrique. Ouais. Donc, il joue.
Sur les 34 matchs,
il va jouer 14 comme titulaire. Après, il dit que je m'en vais. Et puis, on va lui dire que, bon, ok, tu ne peux pas partir gratuitement.
Aujourd'hui, le même Rabiot a voulu partir,
n'a pas voulu prolonger.
Mais c'est pas du tout ça.
On parlait d'Antero Henrique.
Ouais.
Il faut rappeler une chose.
Ses prédécesseurs étaient bons. On est tous d'accord.
C'est quand même Leonardo qui a construit cette équipe.
Après, il
a fallu renouveler effectivement un certain nombre de cadres. Ça s'est fait avec plus ou moins de bonheur parce que l'effectif était encore consistant. Le point crucial est arrivé l'été dernier, effectivement, avec la retraite de Thiago Motta. Parce que Rémy Nguédo,
Vous vous souvenez vous vous souvenez qu'il l'avait même prolongé d'un an.
Sauf que pendant la saison, tu te rends compte que ça commence à être dur et que tu dis.
Mais jusqu'alors, il y avait encore un 6. Il y avait encore Thiago Motta. Maintenant, effectivement, il n'est plus là.
Il a pas subitement. Tout le monde le voyait. Il ne voulait plus. Mais bien sûr, non, plus, mais, pas non, déjà.
Pour l'écran match, on le ressentait.
Il coulait comme ça dit, bah, quand il montait l'ascenseur. Pour... Mais attendez, c'est pas possible.
Pour l'écran match, on le ressortait et il faisait l'affaire.
Bon, en tout cas, cette affaire pourrait prendre une nouvelle tournure et nous suivrons ce qui se passera entre Henrique et Tuchel. On va rester avec le Paris Saint-Germain parce qu'on va par contre la direction de Lyon que vont prendre aussi dans les prochaines heures.
Il y en aura encore une pour Lyon de possibilités. Oui, peut-être là avec ce mauvais dégagement de Kurzawa. Fekir a le ballon à 30 mètres. Nabil Fekir à 30 mètres. Benfis à l'entrée de la surface de réparation. Le Néerlandais qui va vouloir frapper lui-même. Benfis
c'était pour vous faire mal, Eric. Alors, un commentateur de Tonic Radio que Julien Maguaro est allé chercher du côté de Lyon, bien sûr, parce qu'ils étaient contents, ces Lyonnais. Bon, ils infligeaient.
Pas le mettre dans ma playlist.
Ils infligeaient au Paris Saint-Germain leur une défaite, et ce qui est toujours rare du côté du Paris Saint-Germain. C'était sur la pelouse de Lyon, c'était l'année dernière, et donc ça avait offert la victoire au Gaune. Depuis, alors vous devez quand même, je vous vois sourire de nouveau, Eric, bien oui. sûr, puisque il y a aussi des jours sans avec l'OL, on le sait très bien, ils sont capables du meilleur et du pire, et il y a eu ce 5-0 en début de saison au Parc des Princes. Dimanche soir, le match au sommet de la Ligue 1 offrira donc aux Lyonnais une possibilité de revanche, possibilité, en tout cas opportunité avec un PSG qui est et sans Neymar et sans Verratti, mais ça n'émeut pas beaucoup Bruno Genesio.
Non, ça, je veux même pas l'entendre. Il y a pas Neymar, il y a quand même Cavani, Di Maria, Mbappé, Draxler. J'en parlerai même pas parce que quand je vois leur équipe, quand je les vois jouer encore contre Rennes, même si la première mi-temps a été poussive, on voit ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est pas parce qu'il y a pas Neymar ou Verratti que c'est une équipe qui est moins forte. C'est une très grande équipe, quels que soient les joueurs qui débuteront le match dimanche. Mais nous aussi, on est une grande équipe. On sait qu'on est capable de faire de très grands matchs face à de très grandes équipes et il faudra répondre présent dimanche soir à 21h.
Alors, ils n'ont pas tort. Ils sont capables de faire de grands matchs et on en a vu. Et le plus récent grand match au calendrier de Lyon, c'était évidemment le derby régional contre Saint-Etienne où ils ont crucifié les Verts hein, chez eux sur leur pelouse à Geoffroy Guichard. Est-ce que cette équipe qu'on voit quand même monter en puissance, parce que depuis qu'elle s'est pris le 5-0 quand même, elle s'est ouais. améliorée, Eric, est-ce qu'elle pourrait infliger au Paris Saint-Germain cette saison sa première défaite?
Oui, elle pourrait. Je pense qu'elle pourrait. Après, faut pas oublier avant ce 5-0 que ils avaient largement fait jeu égal, voire même mettre en difficulté ces Parisiens. Donc après, il y a eu l'histoire de l'expulsion et de tout ça là, qui a un peu déstabilisé cette équipe. Ouais, d'ailleurs, j'étais surpris qu'ils sombrent autant. Parce qu'ils ont quand même de l'expérience et ils ont perdu un peu pied par rapport à cette naïveté d'expulsion. Ils étaient 11 contre 10. Ils se sont retrouvés à 10 contre 10. Et là, après, c'était le feu Neymar Mbappé. Mais voilà, ils ont posé des problèmes à Paris. Donc, ils sont capables de poser des problèmes à n'importe qui. Sauf que, ils ont du mal avec la régularité. Donc, c'est ça qui, mais je pense que sur un match avec enjeu comme celui-là, enfin, enjeu, je parle de
motivation,
de,
voilà, c'est
ça. Ouais, je pense qu'ils vont répondre présent.
Il y a un enjeu quand même pour Lyon. Il y a un sacré enjeu.
Oui,
c'est si jamais derrière Saint-Etienne gagnait et Lyon perdait, ils se retrouvent là. Faire un résultat contre le Paris Saint-Germain leur donne un peu d'air par rapport au podium aux Lyonnais.
Mais surtout que l'objectif, c'est la deuxième place, on rappelle, qui est la seule directement qualificative pour la Ligue des Champions. Cette année, la troisième l'était, mais la troisième, il passe par les barrages. Donc, ce qui est toujours un piège, on parle d'accès dès la Ligue des Champions. Donc pour Lyon, une victoire, bien sûr, c'est important au niveau prestige, mais c'est surtout important au niveau comptable. Et si on regarde un peu ce qui s'est passé ces derniers mois, effectivement, on dit que Lyon est un peu irrégulier, mais là, ils sont sur une série de 11 matchs sans défaite. Ils n'ont plus perdu depuis le début décembre contre Rennes. Ils s'étaient fait surprendre à Gerland, au Groupama Stadium.
Mais après, ils ont aligné aussi certains matchs nuls étonnants.
Mais ils ne perdent pas.
Non.
Et c'est vrai qu'on voit cette équipe lyonnaise, on l'a encore vu à Saint-Etienne lors du derby où ils étaient menés. Eh bien, ils vont chercher les résultats, ils y vont à l'arrache. Parfois, c'est pas flamboyant, mais ils ont vraiment la hargne pour y arriver. Donc, cet état d'esprit, plus quand même quelques joueurs de talent, parce qu'il y en a à Lyon, moi, j'attends avec impatience ce choc de dimanche soir.
Eh ben, justement, des joueurs de talent, nous avons par exemple Nabil Fekir, le capitaine, champion du monde. Écoutons-le, Nabil Fekir, déjà un peu provocateur envers les adversaire de dimanche soir.
Marça, c'est dans la tête de tous les joueurs. Mais avant ça, il y a déjà des matchs très importants en championnat et en coupe. Voilà, c'est, on va pas dire que c'est un adversaire du même niveau que le Barça, mais comme vous l'avez dit, c'est un match de Ligue des Champions qu'on aura à jouer dimanche, et ce sera un bon test avant le match du Barça. Je pense que le Barça est un peu plus fort, voilà, même si c'est PSG, c'est une grande équipe.
Voilà, le Barça plus fort que le PSG, mais le Barça, évidemment, vous le savez, autant le Paris Saint-Germain a dans sa tête Manchester United, autant Lyon a dans sa tête le Barça, les Barcelonais qui seront leurs adversaires en huitième de finale de Ligue des Champions. Exactement, et le match sera d'ailleurs retransmis sur RFI. Rémi Ngono, vous voyez un Paris Saint-Germain, tout à l'heure Bruno Genesio dit non, mais même sans Neymar et sans Verratti, c'est une équipe qui fait peur. Est-ce que vous les voyez buter, les Lyonnais, contre ce PSG-là?
Bien sûr, parce que Lyon, tout un chacun se rappelle quand même qu'ils ont été très, très, très efficaces, et surtout une équipe cohérente contre Manchester City, qu'on voyait comme une superbe grande équipe européenne.
Donc vous les voyez plus fort que le PSG-là?
Je ne les vois pas. Le PSG est déséquilibré actuellement. Je vous ai dit, d'abord, Neymar, qui fait beaucoup de différence et qui permet souvent à Mbappé de prendre la profondeur, il n'est pas là. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais vous perdez une grande arme là. Bon, Cavani, c'est bien parce qu'il peut bien couper des balles, mais c'est pas le joueur qui est aussi dangereux qu'on peut l'espérer. Donc aujourd'hui, je regarde cette équipe de Lyon. J'ai dit bien que Lyon, j'ai regardé beaucoup de ces matchs avec certaines grandes équipes, comme j'ai dit bien que avec City, quand ils jouent, par exemple, avec deux blocs bien regroupés, c'est-à-dire en 4-4 et puis 1-1. J'ai vu que c'était bien consistant. Donc, à partir de là, ils ont un certain équilibre par rapport au Paris Saint-Germain qui, on parlait déjà du milieu de terrain, qui peut créer des désagréments. Donc, moi, je me dis, Lyon peut toujours faire quelque chose. C'est vrai que Lyon également, vous pouvez regarder Lyon aujourd'hui qui déçoit contre Reims, mais qui fait quelque chose contre une grande équipe. Donc, pour moi, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est bel et bien prenable.
Le PSG, donc, qui, notons-le, hein, reste de ces équipes qui n'a pas perdu en championnat depuis le début de saison, et ils n'ont enregistré, si je ne me trompe pas, qu'un seul match nul, n'est-ce
Est-ce
pas
Est-ce que vous voulez lire par-dessus mon épaule, par exemple?
Non, non, à travers.
Pour dire qu'ils ont disputé 20 matchs, hein, 18 victoires,
oui, ils ont
et
2 nuls.
2 nuls.
Oui, 18 victoires et 2 nuls. Pas encore de défaite, la seule défaite, c'est en coupe. Face à Guingamp.
Coupe de la Ligue.
Coupe de la Ligue. Et bien sûr, à Liverpool, en Ligue des Champions.
Et ça sera très intéressant, ce match du dimanche soir, comme on dit, en Ligue 1. En Première Ligue, the match of the weekend. Le match du week-end sera donc ce City-Arsenal. Avec dimanche à 17h30. Ça peut arriver. Avec ce City Arsenal, dimanche soir, donc fin d'après-midi, 17h30, et Manchester City, qui n'a pas le droit à l'erreur. Les champions d'Angleterre en titre sont déjà à 5 points de Liverpool après leur défaite à Newcastle. On vous en a parlé cette semaine. C'était lors de la 24e journée passée si surprenante. Mais face aux Gunners, qu'ils vont recevoir sur leur pelouse, les Citizens, eh bien, ça serait mieux qu'ils gagnent, on va dire. Surtout s'ils ne veulent pas voir les Reds s'échapper. Pep Guardiola n'a pas voulu se montrer inquiet sur son groupe.
Tous les joueurs jouent bien, et quand les joueurs sont à un haut niveau, celui de l'équipe s'accroît aussi. Il faut qu'on s'améliore dans le jeu, surtout au regard des dernières rencontres. Il faut vraiment qu'on reste concentré. Le match contre Arsenal sera différent de celui de Newcastle. On est le 1er février, il y a encore beaucoup de matchs et plein de points à prendre. Il y a aussi plein de choses qui peuvent se produire. Il y a des points à améliorer. Je connais bien Emery, c'est sa première saison avec Arsenal. Il a de nouveaux joueurs, mais il a fait de très grandes choses par le passé. C'est en Espagne et au PSG. Je pense qu'il fera de grandes choses ici aussi.
Alors City, est-il un peu moins bon en ce moment, Xavier, ou Arsenal, hein, on vient de les voir, ils sont revenus dans le Big Four anglais, à la faveur de sa 24e journée.
Oui, mais si on prend les résultats des équipes de tête en Angleterre, là, ce Big Six qu'on suit avec attention, on s'aperçoit que Manchester City, cette saison, a déjà fait 13 points sur 18 possibles, alors que Arsenal en a fait que 8 sur 21 possibles. Donc on voit que dans les matchs au sommet, Manchester City est au-dessus. C'est d'ailleurs ceux qui ont auront le plus de points juste devant Liverpool.
Oui, on a deux groupes d'ailleurs. Doit être
le plus faible nom du traditionnellement, c'est quand même ce qui les plombe saison après saison depuis un petit moment.
Oui, alors ils sont un peu moins mauvais maintenant, ils l'étaient avant. mais là, je vais en profiter pour dire qui est le plus faible, parce que vous me tendez la perche et ça va faire plaisir à Rémy Ngono, c'est Manchester United, avec seulement 5 points sur 18 possibles. Mais bon, faut dire qu'ils avaient un entraîneur qui s'appelait José Mourinho.
Ils ont rattrapé un peu de leur retard. Hein.
mais c'est vrai que dans les grands matchs, Arsenal ces dernières années n'y arrivait pas. C'est là où était sa limite, c'est que
ils ont raté avec
Arsène Wenger, oui.
Avec Emery, ils n'y arrivent pas mieux.
Mais non, mais
c'est surtout que
Emery est quand même un spécialiste de ne pas réussir contre les grosses équipes. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est quand même, c'est pour
là,
ça que tu vas chercher.
Dans le championnat d'Espagne, il avait des stats calamiteuses face à Barcelone.
C'est incroyable. C'est-à-dire, dans tous les championnats où il est passé, en France ou contre les gros.
Les gros, ça passe pas.
Ouais, ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un problème de mentalité ou de, il arrive pas à transmettre, parce que c'est un bon entraîneur. On va pas dire que c'est pas un bon entraîneur. Mais c'est, je sais pas, il y a un truc qui, je sais pas s'il y a un blocage ou un cap qui n'arrive pas à passer.
Bon. Donc,
ce qui est sûr, c'est que Manchester City doit gagner.
Arsenal, Chelsea, c'était combien? Dernier match.
Je crois que c'est le seul qu'ils ont gagné.
Ok, voilà. Ils
ont gagné. Avec Rémi, il y a toujours un moment où tu caches la forêt.
Liverpool, Arsenal
ou le Stade.
Ouais, d'accord. Ouais. Encore un proverbe français. L'arbre qui cache la forêt. 2-1 par rapport à l'Afrique.
Allez, Rémi, il va falloir nous en donner un ou deux.
Arsenal à l'extérieur a pris un seul point sur ses déplacements, c'était contre Manchester United, 2-2. Sinon, ils ont perdu effectivement à Chelsea et à Liverpool. Donc à l'Emirates, ils ont 2 victoires, mais en déplacement, rien.
Rémi, ces Citizens qui ont perdu à Newcastle, est-ce que quand même là, ils vont réussir à ne pas perdre?
Attendez, c'est Xavier Barré qui nous disait que c'était une équipe invincible. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est Liverpool qui est en train de trotter en tête. Depuis là, on ne voit toujours pas Manchester City imposer son gros style. Et il y a quand même un écart assez conséquent. Donc, Xavier Barré, 5 points. Donc, c'est quand même déjà consistant comme ça. Et quand je vois ce qu'ils ont eu à produire contre Newcastle, ce n'était vraiment pas impressionnant.
C'est ça.
Donc aujourd'hui, je dis que ce Manchester City, aujourd'hui, n'est plus séduisant comme celui de l'année dernière. Et de toutes les façons, tout le monde connaît déjà la façon de Pep Guardiola de jouer. Aujourd'hui, c'est un football improductif. Et j'ai dit que, tout comme Chelsea a perdu contre
des 100 buts. Des 100 buts, c'était la première équipe dans les 5 grands championnats à passer le cap des 100 buts. C'est pas une équipe improductive. C'est une équipe, effectivement, qui, cette saison, a une obsession, c'est la Ligue des Champions. Et donc, une obsession, c'est la Ligue des Champions. Et de fait, ils sont en 8e de finale contre Schalke,
Après avoir pris combien de points contre Lyon?
Non, mais là, on parle de l'actualité.
Un point!
Mais ils sont
un
qualifiés.
Un point sur 6.
Ils sont qualifiés. Et
Vous dites que c'est un objectif, mais ils sont incapables de tenir devant Lyon.
Leur objectif, ils sont en 8e de finale. Ils sont en 8e de finale.
Mais ils sont arrivés par un trou de souris, exactement comme une souris entre à l'église.
Il y est pas arrivé avec Mourinho, il me semble.
Il y a un vieux proverbe français qui dit une bonne équipe avertie en vaut deux. Donc ce Manchester City qui a été piégé par Lyon en début de saison fera plus attention, on peut l'imaginer à l'avenir.
C'est infligé à l'Afrique côté proverbe.
Rémi, il va falloir en aligner là des proverbes avant la fin de l'émission. En tout cas, dimanche, juste avant ce match City-Arsenal, il y aura un Manchester United qui ira jouer à Leicester City. Vous avez entendu Jakim Bonnevé dans notre émission qui nous en parlait. Exactement, il le disait, mais par contre, il se désole de ne pas réussir face aux autres. Hein. Et puis Liverpool jouera lundi soir, et ça sera le dénouement de cette journée de Premier League, jouera à Wembley contre West Ham. Un tout petit détour par Abu Dhabi, où le Qatar jouait. Et le Qatar était en train en passe de devenir champion d'Asie. Xavier Barré, c'est une équipe qui est assez étonnante parce que elle a aligné les points, elle a aligné les buts, et surtout, elle s'est retrouvée avec tout à l'heure. Eric, vous regardiez et vous trouviez que finalement c'était un style de jeu assez intéressant.
Ben moi, j'ai trouvé cette équipe qui jouait pas mal. C'est vrai que en organisation et en travail collectif, c'était plutôt intéressant contre cette équipe du Japon qui était.
Ben, il menait.
Qui était en en grande difficulté. Hein.
Ils menaient 2-0 à la mi-temps, donc ils avaient quand même réussi le plus dur en marquant.
Exactement,
sur,
et les Japonais avaient l'air très dépassés par...
Ils n'avaient pas trouvé la solution.
Et donc en fait, leur force, c'est la défense, puisqu'ils avaient jusqu'à cette finale, jusqu'à la mi-temps de cette finale, encaissé aucun but. Et c'est quand même assez incroyable. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître comme mérite à cette équipe du Qatar, c'est qu'elle est l'issue d'un travail vraiment en profondeur effectué par le Qatar depuis une dizaine d'années. Quand ils ont ouvert l'Académie
Aspire... Depuis qu'ils ont eu la Coupe du Monde, n'est-ce pas ?
Oui, mais déjà avant, ils avaient ouvert l'Académie Aspire en 2005.
Depuis qu'ils ont acheté la Coupe du Monde, on dit.
Oui, alors ça, c'est... Mais surtout, c'est cette Académie qu'ils ont créée...
et qui s'appelle Aspire, hein, vous avez noté.
Aspire, oui, voilà.
Aspire les talents.
Exactement. Alors, c'est vrai qu'ils font venir beaucoup de joueurs, notamment du continent africain. Al-Mouaz Ali, qui est le nouveau recordman des buts en Coupe d'Asie, puisqu'il a ouvert le score et a marqué son 9e but dans la compétition. Le recordman jusqu'alors, c'était l'Iranien Ali Daei avec 8 buts sur une compétition. Donc, il est né à Khartoum, au Soudan, mais il a grandi au Qatar. Il a été formé à l'Aspire. Et donc, il fait partie de cette équipe du Qatar. Aujourd'hui, il est nationalité qatari, comme le défenseur Ali Al-Rawi, qui lui est né en Irak et qui est venu au Qatar, qui a grandi au Qatar, qui est aussi passé par Aspire. Donc, ils ont réussi leur pari, il faut reconnaître, d'un point de vue sportif. Après, on peut discuter d'un point de vue éthique, mais d'un point de vue sportif, cette politique qui a été amorcée dès 2005 de faire venir des jeunes d'autres pays et d'autres continents qu'ils sont que 400 000 citoyens au Qatar, eh bien, elle est en train de porter ses fruits avec
une seconde Rémi.
Je vous confirme juste au moment où le temps additionnel est en train de se terminer que le Qatar mène 3-1 face au Japon. On peut considérer que le Qatar est le nouveau champion d'Asie.
Et surtout, c'est vrai qu'en plus, ils ont voulu non seulement créer des talents et avoir une équipe avec un certain niveau, mais ils ont aussi essayé de chercher des entraîneurs qui donneraient un style, et notamment l'entraîneur qui est espagnol,
Félix Sanchez,
et qui vient de la Masia.
Qui est un ancien de la Masia, hein, et qui travaille d'ailleurs en bonne intelligence avec Xavi, l'ancien joueur du Barça, qui lui aussi est entraîneur là-bas dans le club d'Al-Sadd, qui forme l'ossature de cette sélection du Qatar. Donc, il y a une identité de jeu. Au début, on peut le déplorer, nous, Français, parce que les premiers ces entraîneurs qui avaient été choisis par le comité olympique du Qatar pour organiser le football là-bas, c'était des Français. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs français qui sont partis là-bas. Finalement, aujourd'hui, ils se sont plus tournés vers l'école espagnole. Et le résultat, c'est que ils vont être champions d'Asie pour la première fois de leur histoire.
Rémi ?
C'est la preuve aujourd'hui que le Qatar, ce n'est plus le Qatar, c'est les Nations Unies du football. C'est-à-dire qu'à une certaine période, je ne serais même pas surpris qu'ils recrutent tous nos joueurs du Cameroun, tous les joueurs du Congo, tous les joueurs de partout, et tout.
Retenez-les.
Bon, donc finalement, ça ramène à ce que aujourd'hui, Xavier Barré qui dit souvent que non, l'éthique sportive, on est en train d'acheter ceci. C'est le même Xavier Barré qui nous fait comprendre que nous, il y a une identité.
Rémi,
seule identité du Qatar, c'est l'argent, c'est le point de dénominateur commun. Et c'est ça qui fait la clé du succès. Il y a un proverbe africain qui dit toutes les clés en or ouvrent toutes les serrures.
3-2. Je voudrais juste dire qu'on a évoqué le handball. Ils ont fait exactement la même chose avec le hand. Ça n'a pas été une réussite sur la longueur. Parce que ça a marché sur un championnat du monde. Ouais. Pas là. Là, ils sont ramassés totalement. Et on peut même dire qu'ils étaient aux fraises. Donc ça marche.
Parce que
sur le long terme, je ne suis pas sûr que ça marche.
Mais c'est ça. Je pense qu'ils ont voulu accélérer. Ils veulent accélérer les choses. Sauf que ça
Y a une échéance.
Sur le handball, il y a une réglementation qui autorise un joueur à changer de nationalité après 3 ans sans être sélectionné dans son pays d'origine. D'accord. C'est comme ça qu'il y a un Français.
Ça a marché au départ, ça n'a pas marché au dernier championnat du monde.
Parce qu'il n'y a pas une vraie formation, il n'y a pas un programme aussi à long terme.
Ils ont mis tout l'argent sur le football.
Oui, mais surtout, il y avait un championnat à un moment que eux organisaient. C'est là où ils avaient mis effectivement tous leurs œufs dans le même panier. Et maintenant, en vue de 2022. Et à noter quand même, que cette équipe, donc, championne d'Asie, se retrouvera, en ordre de marche pour la prochaine Coupe du Monde, en étant passée par l'Amérique du Sud.
Oui.
Puisqu'ils ont été invités à la Copa América. Ils se retrouvent dans le groupe de l'Argentine. Alors je pense qu'on en reparlera, et notamment avec Carlos Bianchi quand il reviendra à Paris.
Les deux finalistes de cette Coupe d'Asie seront à la Copa América en juin prochain, puisque
le Japon
également
aussi
est invité, mais il l'avait déjà
été. Ça va vraiment être drôlement passionnant, cette Copa América.
Le Japon est souvent invité. Et direction notre session carton, je pense que ça va être animé aujourd'hui encore.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Oulala, carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Rien à dire.
Et le premier carton aujourd'hui est au plus jeune d'entre nous dans ce studio, Louis Piga, qui est donc notre stagiaire et qui referme traditionnellement son stage en mettant un carton. Alors quel est votre carton et de quelle couleur?
Il est carton vert. Donc je le mettrai à un joueur dont on parle pas en France.
Il est colombien, il a 27 ans, il joue à l'Atalanta Bergame et s'appelle Duvan Zapata. Donc il est en train de réaliser sa meilleure saison. Il a inscrit 15 buts pour 21 matchs en championnat. Donc il se hisse au niveau de Cristiano Ronaldo.
Attention Rémi, il est à côté de vous.
Quand même. Ouais, mais il n'aurait pas à cœur de taper sur les petits.
Et le devance même de 3 buts dans toutes les compétitions confondues.
Waouh. Donc carton vert pour Zapata. Viva Zapata.
Hein, bon choix. Bien joué, bien
tiré. Bravo et Rémi, hein, n'est-ce pas Cristiano Ronaldo, il va falloir que... Il fouette parce que nous, cette semaine avec Matteo Cioffi, on a parlé d'un autre joueur qui est maintenant devant lui, qui a marqué 16 buts en championnat, Quagliarella.
Quagliarella,
et qui joue à la Sampdoria Genoa, si je me trompe pas, et qui actuellement vient juste de le dépasser. Olivier, prends à vous pour un carton.
Maintenant que je suis rentré du Gabon, je peux y aller. Si on avait parlé vélo, j'aurais mis un carton vert à l'organisation de la Tropicale Amissa Bongo, ce tour du Gabon qui est parfaitement maîtrisé. Mais comme on parle football et que je suis rentré, je peux flinguer ce qu'on appelle partout dans le monde des éléphants blancs.
On flingue avec un carton rouge, c'est ça ?
J'ai eu l'occasion d'en découvrir un éléphant blanc. Enfin, on n'avait pas trop de doutes sur le fait qu'il en devienne un. C'est donc un carton rouge. Alors, je ne sais pas à qui, à l'État gabonais, aux organisateurs de la CAN 2010, à ceux qui gèrent maintenant ces stades qui ne servent plus à rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que il y a quelques années, pour construire un stade à Oyem, ou plutôt entre Oyem et Bitam, parce qu'on est à 20 km de l'une et à 40 km de l'autre, on a rasé la forêt équatoriale, et puis on a décidé d'y construire un stade. On y a joué 6 matchs, je crois, de poule, un quart de finale. C'était il y a 2 ans, depuis, plus rien. On m'a parlé vaguement d'un match amical, même pas des Panthères du Gabon, mais peut-être entre deux clubs. On m'a même expliquer qu'un arbre était en train de pousser près d'un poteau de corner. Moi, j'ai pu tourner autour de ce stade il y a quelques jours. Il est à l'abandon, totalement. Le village à côté qu'on avait bâti... Un village de containers pour abriter des ouvriers chinois qui ont construit ce stade est totalement à l'abandon lui aussi. Une fois de plus, un éléphant blanc, celui-là on se demande, on rêve que la forêt, dans quelques années, reprenne ses droits et mange à son tour le stade. Et on demande globalement aux organisateurs d'arrêter de construire ce genre d'enceinte qui ne sert plus à rien.
Rémi.
Mamadou Bello Barry, de ma page Facebook Roaming en officiel, donne un carton rouge à Mauricio Sarri, qui refuse de mettre Kanté à son poste habituel, disant que il n'est pas technique et tout, résultat, quand même 6 buts en 2 matchs. Et bien sûr que personne ne veut actuellement critiquer fortement, Sarri en disant c'est un bon entraîneur, c'est les joueurs qui n'appliquent pas très très bien. Mais n'oublions pas quand même que quand c'était Mourinho, que ce soit Xavier Barré, tous les journalistes et toute la presse internationale, eh bien on disait que ça ne vaut pas la peine. Mais aujourd'hui, après Mourinho, il y a eu Conte, il y a eu Sarri, mais ça ne va pas avec Chelsea, comme le dit un proverbe africain, on critique la rosée, mais on s'était devant le déluge. 3-3.
3-3. Eric.
Oui.
Un carton.
Carton rouge pour Monsieur Schneider. Alors, vous savez que je suis en train de me prendre la tête avec les arbitres. J'essaye de me soigner, hein, mais c'est dur. Hein, c'est vrai que. Et pour l'histoire de Neymar, il y avait pas de carton. Pour là, il met 2 cartons rouges sur le match de Nantes-Saint-Etienne avec l'esprit et le.
Oui. Voilà, qui planait au-dessus de ce match.
Ouais, c'était mal placé.
Le jour de l'hommage à Emiliano Sala.
Voilà, tout simplement. Voilà.
Donc carton rouge à un arbitre de la part d'un joueur. Xavier.
Moi, sur ce même match, je vais mettre un carton vert au public de la Beaujoire que j'ai trouvé d'une extraordinaire sportivité.
Le cœur canari de Xavier
Emiliano Sala.
Et pour terminer, Radio Foot International met un carton vert à un de nos auditeurs qui s'appelle Carlos Taub de Yaoundé, parce qu'il nous a écrit un petit mot délicieux que je vous livre avec les participants d'hier. Nabil aurait pu être Jelit des DJ. Karine aurait pu bosser chez Gali Mar. Olivier, comme d'habitude, prône le beau jeu. Philippe analyse à la douce, épique quand même. Annie fonce, agace, mais jamais nier ses petits manquements et ceci fait son charme. Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci à tous.
Et à lundi.